Bonjour, bonjour Patrick Rochedi.
Bonjour.
Voilà.
À toutes et à tous, bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de S'écouter, ça compte.
Avec grand plaisir et merci à vous.
Voilà, donc nous avons laissé un libre choix à l'artiste pour s'exprimer. De quoi auriez-vous envie de nous parler ?
Eh bien, comme j'ai travaillé pendant ce confinement, j'ai un peu affiné mes réflexions, tout ce qui me tenait à cœur quant à la vie des villages de montagne, quant à un projet de travail à double voie qui s'appelle Ballot Village. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur la vie des villages de montagne. Et j'avais envie de raconter une histoire d'un village de montagne. Voilà. La résonance par rapport à mes réflexions actuelles, quoi.
D'accord. Eh bien, on pourrait, si vous êtes prêts, on pourrait vous écouter dans ce petit conte. Et puis on revient après.
Eh bien, pas de problème.
Voilà. C'est à vous.
D'accord. Il était une fois Héroïncop, un village de montagne. Un de ces villages accrochés aux pentes dont se demandaient, les gens d'en bas en tout cas se le demandaient, mais comment ces gens là-bas en haut continuaient à vivre dans des conditions pareilles. Des pentes, des hivers rudes, des saisons très marquées, en fait rien de facile quoi. Mais si vous, par hasard, vous étiez passé par ce village-là, que vous étiez arrêté à l'auberge, parce qu'il y avait quand même une auberge, les gens vous auraient dit qu'ils étaient bien là, qu'ils étaient installés là depuis le début de l'éternité, et qu'ils espéraient bien qu'au dernier jour de la dite éternité, ils seraient encore là. Ça vous aurait peut-être un peu surpris, mais le regard rieur, le petit verre de vin en signe de bienvenue, eh bien, vous n'auriez pas osé poser d'autres questions, même si l'étonnement vous avait un peu emprunt le cœur. En fait, toujours est-il que la vie se passait comme la vie de partout, avec ses bons moments, ses moins bons moments, jusqu'à cette année-là. Cette année-là, il y a eu de sécheresse terrible. De mémoire des gens du village, on n'en avait pas vu autant depuis nous. Une sécheresse telle que même la bergère, qui était un peu le savoir du village, qui était celle vers qui tout le monde se tournait quand il y avait un souci, même la bergère a eu l'air inquiète. Alors on a laissé passer quelques semaines encore, mais quand on a vu que dans le ciel, c'était une tempête de ciel bleu, qu'il n'y avait pas le moindre nuage à l'horizon, le maire s'est inquiété, il a ramené son monde à l'auberge un soir et puis il a dit « la situation est grave ». Peut-être que si cette sécheresse se poursuit, nous devrons penser à descendre dans des terres plus basses où les rivières coulent encore, alors que les ruisseaux qui traversent notre village s'amincissent de semaine en semaine. Il n'a pas eu le temps d'en dire plus. Il y a un vieux qui s'est levé, je lui ai dit, monsieur le maire, tu ne crois pas que nos ancêtres ont vécu des conditions encore plus difficiles que les nôtres ? Alors là, le maire n'a rien rajouté. Il a payé un coup à boire à tout le monde et ça s'est arrêté là. Mais si on a espéré les pluies de l'automne, en automne, il n'y a eu goutte. Les neiges de l'hiver, peut-être. Des neiges, on n'en a pas vu le moindre flocon. Tant aussi bien qu'au printemps suivant, quand la bergère a rassemblé toutes les bêtes du village pour les emmener dans les pentes se nourrir comme elle pouvait, l'herbe derrière, à chaque pas d'une bête, s'effondrait en poussière. Alors voyant ça, le maire a ramené son monde à l'auberge et il a dit que la situation devenait franchement catastrophique. Mais il y a encore eu un vieux pour dire qu'on n'allait pas quitter le village comme ça, abandonner les morts au cimetière, les maisons, les terrasses. Et on a tergiversé encore et le maire a dit « attendons ». Mais quand le ruisseau s'est asséché, le maire a ramené son monde à l'auberge une troisième fois et a dit « maintenant, il faut descendre ». Demander l'hospitalité à nos cousins des villages d'en bas. Et tout le monde a baissé la tête. Ce qui les a fait réagir, c'est un raclement de gorge. La bergère, au fond de la salle, rouge comme une tomate de septembre, allait parler. Et elle, qui était avare de mots, et pourtant elle avait une belle voix quand elle chantait, elle allait parler, alors on l'a écoutée. Oh, elle n'a pas dit grand-chose, elle a dit juste « donnez-moi 3 jours ». Je crois que nous n'aurons pas à aller trop loin. Ça a été le soulagement général. On lui aurait donné 3 fois 3 jours à la bergère volontiers. Et le lendemain, il est parti avec sa chèvre pour se nourrir de son lait. Et pendant la nuit, s'était installé sur le village au ras des toits une brume. Et quand la bergère a tourné à l'angle de la dernière maison, c'est comme si une nuit infâme l'avait avalée. Mais la bergère, elle connaissait le pays comme sa poche. Elle a monté, 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 avec la chèvre à son côté, la sonnaille qu'elle entendait de plus près, de plus loin. Mais quand même, à un moment donné, elle s'est dit que elle avait peut-être été vaniteuse de prétendre qu'elle trouverait comme ça un paradis pour le village. Et à ce moment-là, l'idée lui a traversé l'esprit de redescendre, de s'excuser devant tout le monde. Mais la chèvre, qui a pu peut-être percevoir son hésitation, s'est plantée devant elle, l'a poussée d'un coup de tête, comme pour lui dire « Allez, ma belle, va, continue. » Et la bergère a continué. Elle a grimpé, grimpé encore, jusqu'au moment où son cœur s'est devenu lourd. Elle s'est dit que non, décidément, elle s'était trompée. Il fallait qu'elle retourne au village, ce serait la honte de sa vie, elle avouerait. Mais la chèvre, une deuxième fois, lui a barré le passage. Alors la bergère a continué et continué, jusqu'au col. Ce col, depuis le village, c'était celui qui attirait les regards. Mais personne n'y était jamais monté. La pente était rude. Et puis les vieux, les gardiens de la mémoire, disaient que de l'autre côté, soit il n'y avait rien du tout, que c'était le bout du monde, un grand vide, un immense ravin sans fond, soit le pays des ogres. La peur aidant, seule la bergère, sans en parler à personne, était déjà allée. Mais là, dans cette brume immense, intense, elle a hésité une troisième fois. Et la chèvre est venue derrière elle, l'a poussée en lui disant « Allez, ma belle, va !» Et la bergère est descendue. Et tout d'un coup, quelques pas plus tard, la brume avait disparu. C'était un soleil magnifique. Ce qu'elle avait sous ses pieds, c'était un vallon vert d'herbe qui ondulait sous le vent, d'un ruisseau qui gazouillait, d'un verger aux pêches luisantes. Ah, quand elle a vu la chèvre déjà en bas, elle s'est dit que c'était pas une vision, que c'était la réalité. Alors elle est descendue, elle a plongé ses mains dans l'eau, elle a cueilli une pêche juteuse. Elle était tellement contente d'avoir trouvé le paradis pour le village qu'elle s'est mise à chanter. À chanter, à danser, à tourner, à virer, à chanter, à danser. Malheureusement, un trou. Un trou d'une marmotte peut-être quelque part. La bergère met le pied dedans, elle l'entend, la cheville qui se brise. Et elle sait à ce moment-là qu'elle ne pourra pas rentrer au village. Que tous lui ont fait confiance et l'attendent. Mais la chèvre vient vers elle. La chèvre qui quémande d'une caresse, qui quémande d'un gratouillis entre les cornes, une pêche juteuse. Mais la bergère se dit que si elle renvoie la bête au village, la bête les ramènera. Alors elle lui explique. Je ne sais pas si vous avez déjà expliqué quelque chose de chèvre. Mais la bête, c'est l'envie de retourner au village, ce n'est pas ça qui la tient. Et au moment où la bergère désespère, elle se rappelle que dans sa poche, elle a un bout de papier et de crayon. Alors elle note une toute petite phrase, elle plie le papier en quatre, elle glisse sous le collier de la chèvre et la chèvre s'en va en direction du col. La bergère la voit disparaître. À ce moment-là, au village, ils sont tous sur la place, en attendant la bergère et sa chèvre. Quand ils entendent de la sonnaille de la bête, ça y est, les cœurs s'allègent, elle est de retour, elle va les emmener au paradis, au nouveau paradis. On voit arriver la chèvre, on la câline, on lui offre une poignée d'orge échappée des rats, on se tord le cou, on attend sa maîtresse, mais la maîtresse ne vient pas. Alors on commence à regarder la chèvre au travers, en se disant que cette bête-là, c'est l'engeance du diable. Puis il y a des voix dans le village, des voix de ces mauvaises gens qui commencent à dire que de toute façon, on a fait confiance à une bergère, que ça c'était une première erreur, que la deuxième c'est faire confiance à une femme, mais là, on les fait taire. La chèvre, elle se pavane au milieu d'eux, Elle a l'œil brillant, le poil luisant, elle fait envie. Bientôt, un couteau sort et on égorge la bête. Rôti, elle est dégustée comme le fiel de la vengeance contre le destin. Mais il y a la peau qui fait tache là sur la place. Et un qui ne peut pas supporter de la voir ainsi s'approche d'un coup de pied et tente de l'envoyer derrière une bouscasse. Mais la peau s'accroche à son pied et monte en dessus de leur tête. Et quand elle redescend, s'en détache comme un petit parpaillou, un petit papillon blanc qui prend son temps, qui se laisse porter, qui volette jusqu'à se poser au milieu d'eux. Bientôt, l'un s'approche, ramasse le bout de papier, le déplie. Oh, des filles, il y a les mots tout simples de la bergère, des mots qui disaient « J'ai trouvé le paradis, suivez la chèvre !» Voilà.
Alors, que dire?
Bon, c'est un conte traditionnel, mais voilà, que j'ai adapté à ma vision du monde, c'est-à-dire à la montagne, bien sûr, puisque c'est mon monde quand même. Les histoires, j'aime bien les placer, sinon dans mon village, mais dans des villages de montagne que je connais, que j'ai fréquenté, qui sont les endroits où je me sens bien. Mmh.
Et vous sentez qu'il y a le contexte autour de vous a une influence sur vos contes, que ce soit climatique comme la sécheresse ou le confinement ou les enjeux politiques ou...
Ah, mais c'est particulier pour ça. Hein. Mmh. Mais en fait, en même temps, le conte n'a pas disparu, c'est pas confiné le conte. On en a profité avec des copains, je devrais pas le dire officiellement, mais en début du confinement, on s'est quand même retrouvés chez les uns, chez les autres, ou à balader. Le pays est tellement vaste, peuplé de petits chemins, qu'on est allé marcher, comme d'habitude, on a arpenté le pays. Et puis, on a parlé conte, on a parlé histoire, on a parlé aussi, effectivement, de mon travail que je faisais, parce que j'avais envie de le partager au sein de ce confinement, d'en parler avec les copains, d'avoir le regard et tout ça. Mm-hmm. Et le conte a continué. Là, maintenant que le confinement est achevé, les soirées contes reprennent difficilement, mais il y en a. Là, j'en ai trois ce mois. On sent que le monde s'est réveillé. Mm-hmm. Et que le conte est là pour l'accompagner.
Mm-hmm. Bien, merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment très chouette.
Ah, avec grand plaisir. Merci de votre écoute, vraiment.
Merci.
Vous remerciez tout le monde de tout le travail que vous faites et que je trouve admirable parce que c'est pas pour, comme on dit en français, de chez les bottes, mais franchement, c'est une belle histoire.
Oui.
Et alors merci à vous toutes et tous.
D'accord. Donc on rappelle votre site internet, Patrick Rochedy, conteurpaysan.info.
Voilà, c'est ça. Oui.
D'accord. Très bien.
Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir, merci beaucoup. Senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Quello stagno che le canne e il muschio hanno sommerso ed i miei che non sanno di avere un figlio che compone versi ma mi vogliono bene come ai campi alla pelle e dalla pioggia di stagione raro sarà che chi mi offende scampi dalle punte del forcone poveri genitori contadini certo siete invecchiati ancor temete il signore del cielo e gli acquitrini genitori che mai non capirete che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina ma sopravvive
vive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna.